franceinter.fr.
Aujourd'hui, une rediffusion, c'était le 31 août dernier, le roi Babar, au moment où se tient une exposition à lui consacrée aux arts décoratifs à Paris.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Déclaration aux Parisiens du ministre de l'Éducation nationale, il faut réintroduire de la morale en cette rentrée. Donc notre sujet aujourd'hui, la rentrée de Babar.
Je me rappelle qu'à une époque, j'aurais donné ma défense droite pour être comme les autres enfants.
Toi, papa ?
Eh oui, moi. Je m'en souviens même parfaitement bien. En ce temps-là, j'habitais la grande ville. C'était la première fois que j'allais à l'école. C'était un jour que j'attendais depuis très longtemps. Et j'avais hâte d'y aller dans cette école.
Tu veux essayer de te tenir tranquille une seconde ?
Je suis un peu énervée. C'est la première fois que je vais à l'école.
En réalité, Babar atteint maintenant l'âge de 80 ans. Il en a donc connu des rentrées. Et il va vivre celle qui vient avec la même sérénité et le même sentiment de moralité que les autres. Bonjour à Jean-Maurice de Mormy.
Bonjour Jean Lebrun.
Qui est un enfant âgé.
Oui, un vieil enfant.
Et qui a lu Babar depuis très très longtemps, depuis la plus haute antiquité. Vous savez que Babar est né à Chessy, Seine-et-Marne. Et là où il a été conçu, il y a maintenant le parc Disney, mais Babar est un éléphant placide. Une souris ne va pas lui faire peur. D'ailleurs, depuis une trentaine d'années, il s'est installé lui-même aux États-Unis, où il a abandonné ses guêtres et sa pipe. Sa quatrième fille, Isabelle, y est née. Babar est un individu moderne comme vous. Il s'exprime d'abord en anglais, puis après on le traduit en français. Il a d'ailleurs toujours beaucoup voyagé à travers le monde entier, et le monde entier le connaît le soir. Les enfants de tous les pays chaussent des chaussons. Babar et dorment dans des draps à son effigie. Si du moins leurs parents en ont les moyens. Pourquoi n'y aurait-il pas de peignoir ? Pas Babar, puisqu'il y a des montres et des chocolats Harley Davidson. Babar est un père modèle et un éléphant aux œufs d'or. Il a été édité d'abord, Babar, dans une toute petite maison. Vous-même, Jean-Maurice de Mormy, je ne vous ai pas présenté. Historien, écrivain, journaliste, vous êtes un enfant âgé et un jeune éditeur.
Voilà, jeune éditeur, oui, parce que je suis éditeur depuis cette année où est paru notre premier livre chez Alma Éditeur. Mais je ne suis pas là pour faire la publicité de ma maison d'édition, mais pour parler du roi Babar.
Je vais quand même dire que cette maison s'appelle Alma et que Babar pourrait en être l'Alma Pater. Alors, petite maison d'édition au départ en 1931.
Je pense que c'est le jardin des modes, ouais. Si les souvenirs, ou si ce que dit la famille de Brunhoff, l'auteur de Babar s'appelle Jean de Brunhoff, donc c'est le jardin des modes qui... Ce qui explique d'ailleurs peut-être le format, il faut savoir que les vrais Babar, le vrai Babar, c'est celui qui est paru dans des grands albums, des très grandes pages. Et à cause de la commercialisation, je crois qu'on en parlera tout à l'heure, de la commercialisation de Babar, on a coupé Babar à tous les formats, en souple, en demi-souple, en je ne sais pas quoi, de tout petit, et de plus en plus mini maintenant. Il est tout petit Babar, pas plus grand qu'une boîte d'allumettes, mais le vrai Babar, c'est comme le petit Nemo, c'est du format d'un journal. Et les journaux de l'époque, qui était dans un format plus grand qu'aujourd'hui, nous sommes avant la guerre. Ouais. Et donc, ce qui fait le charme de Babar, c'est aussi ce grand format qui a été possible, peut-être parce que c'était une maison d'édition adaptée à ce format-là.
Le jardin des modes paraissait sur un très très grand format. La famille, vous l'avez dit, c'est une affaire de famille. Babar, c'est l'affaire de la famille de Brunhoff. Voici le témoignage de Laurent de Brunhoff, le fils et le continuateur du créateur.
J'avais à ce moment-là 5 ans et mon frère 4 ans. C'est pour nous qu'il a en fait créé le personnage. C'est pas lui qui a choisi l'éléphant. En fait, c'est ma mère qui nous a raconté une histoire d'éléphant. Voilà, comme on la raconte aux petits-enfants. Hein. Les mamans, ça raconte toujours des histoires aux petits-enfants. Elle nous a raconté l'histoire du petit éléphant qui sauvait de la grande forêt et qui allait dans la ville et qui s'habillait. Et puis qui revenait au pays des éléphants et qui était couronné roi. Alors là-dessus, mon père, qui était peintre, a eu l'idée de nous faire un livre pour nous, qu'il a illustré, et puis il a ajouté des personnages. C'est lui qui a ajouté le personnage de la vieille dame, et puis c'est lui aussi qui a eu l'idée de l'appeler Babar. Alors on m'a souvent demandé pourquoi Il avait trouvé ce nom-là, et comment il avait trouvé ce nom-là, mais je ne me rappelle pas, je ne sais pas.
Nous devons choisir un nom pour ce nouveau-né. Des suggestions, Cornelius ?
Moi, je verrais quelque chose de distingué pour ce petit, voyons. Horatio, non ? Ou alors, Archimède, pour ne pas dire comment.
Oh, Pompadour !
Pierre !
Babar !
Que pensez-vous de Babar ? C'est très mignon, non ?
Que ceux qui voudraient l'appeler Pierre lèvent la trompe. Alors, ceux qui sont pour Babar...
Alors c'est merveilleux parce qu'on a entendu derrière la voix de Laurent de Brunhoff, on a entendu beaucoup d'animaux et d'autres
oui, c'est
animaux.
C'est France 3 qui a enregistré dans un zoo en Gironde.
Il était dans un zoo. Alors moi j'ai cru qu'il était dans un des lieux qu'on va trouver dans le monde de Babar. On en reparlera peut-être tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux endroits où on voit beaucoup d'animaux. C'est une ville qui s'appelle Célesteville, dans laquelle tous les animaux ont leur maison. Ils ont plein de petites républiques d'animaux, parce que chaque maison, c'est un peu comme dans une foire universelle, ou comme à, la, je sais pas, à l'ONU maintenant, et avant c'était pas l'ONU, mais où chaque peuple d'animal a sa petite maison, ses habitudes, et vient avec ses spécialités. Et puis il y a aussi un autre Babar qui est très beau, qui s'appelle, c'est l'île aux oiseaux, où Babar va trouver un peuple d'oiseaux avec des plumes multicolores, des chants. Enfin, pour revenir au tout premier Babar, hein, c'est l'histoire de Babar, le petit éléphant.
C'est Jean jusque en 37, qui meurt de la tuberculose
voilà,
très jeune.
Il faut rappeler des choses très importantes. Voilà, c'est que Babar vit avec sa maman dans le pays des éléphants, là tout seul dans la jungle, et puis il va être orphelin très tôt. Et c'est ce qui a fait le départ des aventures de Babar, c'est comment va-t-il sortir du monde des éléphants pour trouver la ville. Mais c'est le premier, c'est très émouvant. Mais
c'est la scène traumatique.
C'est une scène traumatisante.
Elle est racontée ici par Jeanne Moreau soi-même.
Tout à coup, un vilain chasseur, caché derrière un buisson, tire sur eux. Le chasseur a tué la maman. Les singes se cachent, les oiseaux s'envolent. Le chasseur court pour attraper le pauvre Babar. Babar se sauve parce qu'il a peur du chasseur.
Donc cette scène, je pense qu'on vient d'entendre, il faut la voir bien sûr représentée, mais peut-être que beaucoup d'auditeurs ont encore en mémoire ce dessin. C'est un dessin où on voit quelques petites gouttes blanches, des larmes. C'est la seule fois où on voit Babar pleurer et ça brise le cœur. Je pense qu'avec la mort de Bambi, c'est un des moments les plus tristes de ce qu'on a pu montrer aux enfants.
Et en tout cas aux États-Unis, dans les versions américaines, il n'y a pas.
Ce qui fait même toute la valeur du premier, c'est le fait qu'on part de cette scène assez terrifiante pour après voir le pauvre Babar perdu dans la jungle, si je puis dire. Il va sortir de la jungle, qui est une jungle assez désertique, mais il va sortir de la jungle et il va découvrir une ville qui n'a rien à voir avec l'Afrique, puis c'est une petite ville française tout à fait charmante dans laquelle se trouve une vieille dame. Et donc, si on n'a pas la mort de la mère de Babar, on perd tout de même une partie de la force du livre. Hein,
je peux demander à Jean-Maurice de
Mormy. Aussi supprimer la cigarette de Lucky Luke, ils ont fait bien des crimes. Et je crois savoir que Babar ne fume plus la pipe dans les albums modernes.
Oui, mais ça, c'est une question que vous me posez à moi. C'est exact, mais...
C'est exact.
Si je peux vous questionner, vous, bon, sur votre enfance, Jean-Maurice de Mormy, ça a provoqué un traumatisme, la lecture de cette scène, ou d'autres moments de l'histoire de Babar vous ont troublé profondément?
Je pense que chez les lecteurs de Babar, il y a la scène, bien sûr, la mort de la mère de Babar. Il y a aussi, quand Babar arrive dans la ville, une vieille dame qui va l'accueillir, l'amène bien sûr tout de suite chez le tailleur. Et il en sort avec une phrase légendaire que d'autres personnes ont aussi remarqué. Il porte un costume d'une agréable couleur verte. Et ce costume, on voit aussi, bien sûr, il y a le dessin. On voit, il a un beau costume vert. C'est, je veux dire, un vert assez particulier. Je ne sais pas comment le qualifier. Et c'est une agréable couleur verte. Et cette phrase, elle est restée mémorable. Il me semble qu'elle est restée mémorable. Et il y a aussi un autre moment assez fort, toujours dans le même album. C'est qu'on apprend que pendant ce temps-là, au pays des éléphants, il y avait tout de même un roi des éléphants qui régnait. Et on le voit qui mange goulûment, avec sa trompe, bien sûr, un champignon. Ce champignon est vénéneux. Et là, je n'ai pas la phrase exacte, mais c'est très fort. C'est, il en a tellement mangé qu'il est tombé malade. Et il était si malade qu'il en est mort. Et à ce moment-là, le dessin se transforme, le trait très lisse de Jean de Brunhoff devient un petit frisouillis verdâtre avec un éléphant tout verdâtre, quasiment liquéfié. C'est la mort du roi des éléphants. Ça, ça fait assez peur. En tout cas, je défie quiconque de manger spontanément des champignons après avoir vu la mort du roi des éléphants.
Ah bah voilà le traumatisme de votre enfance, un peu semblable à celui qu'a connu dans les mémoires d'un tricheur, Sacha Guitry.
C'est écrit, les phrases extraordinaires que vous citez, et c'est écrit en anglaise ?
C'est écrit, bon, c'est pas tout à fait des anglaises, c'est des caractères penchés, très graphiques, en fait, qui imitent un peu les caractères qu'on employait encore dans les abécédaires quand on vous apprenait les bonnes règles d'écriture. Et le fait qu'il ait recouru à ce type de très bel alphabet qui donne l'impression d'être écrit à la main et par une très belle plume a eu, je crois, une postérité importante chez les dessinateurs et les illustrateurs. Tout le monde rêve d'avoir un beau format et de pouvoir employer son propre alphabet, sa propre écriture.
Et sur une double page, eh bien, le dessin de la ville idéale avec une maison un peu grande pour Babar, une maison un peu moins grande pour la vieille dame et des maisons bien confortables pour tous les éléphants.
Il est un endroit loin, bien loin du pays des hommes, où les jours sont différents. On l'appelle Céleste Ville, la terre des éléphants, le pays du roi Babar.
Je voudrais une fleur pour Sa Majesté Céleste. Merci.
Ah, voilà le cousin Arthur. Il joue à cache-cache avec les enfants de Babar. C'est un petit coquin, Arthur.
14, 15, 16, 17, 18, 19.
Arthur, où est Flore? Et où est Pomme? Et où est Alexandre?
Derrière ces arbres.
Youpi! Youpi!
Là, on est donc dans un univers merveilleux. On avait fait allusion auparavant, c'est la ville de Célesteville. Elle est au bord d'un lac et c'est le bon roi Babar qui est très pacifique et qui est une sorte de roi des animaux, bien qu'il ne soit pas un lion. Le bon roi Babar a décidé de faire une sorte d'exposition universelle qui est plutôt un immense village de vacances, si je puis dire, où chacun des animaux, chaque peuple animal vient et construit chacun sa maison avec ses habitudes, avec, comme on l'avait dit tout à l'heure, ses spécialités culinaires. Alors, quand on est enfant et qu'on voit les spécialités culinaires des animaux, elles sont presque aussi intéressantes que le dessin des animaux eux-mêmes. C'est tout à fait étonnant, c'est très amusant. Et puis, il y a chaque maison a son architecture particulière. Je rappelle que tout cela ça a été conçu dans les années 1930 et on sent sans doute que Jean de Brunhoff s'est amusé à montrer. C'est un peu l'époque du Bauhaus encore, c'est l'époque des débuts. Ça va être Le Corbusier. Il s'est amusé à imaginer une architecture assez moderne où vivent des éléphants et des singes et des lions. Et les ennemis des éléphants, pour une fois réconciliés avec les éléphants, leurs seuls ennemis, qui sont bien sûr les rhinocéros, vivent également là. Alors, il y a même des ouvertures spéciales pour les rhinocéros. Quand vous avez une corne comme un rhinocéros au milieu de la tête, ça pose plein de problèmes. Donc, il a prévu des ouvertures spéciales. Et puis ensuite, il y a en effet une sorte de est-ce que c'est déjà l'avant-guerre, un dernier espoir de paix, de concorde humaine ? Je ne sais pas.
La société des nations.
En tout cas, les animaux vivent en bonne compagnie et surtout ils arrivent, font une grande construction. Il y a le pont, c'est pas le pont de Tancarville, c'est le pont de Célesteville. Il n'y a pas encore de pont de Tancarville en France. Et ils créent des objets un peu d'industrie. Ils sont pas tellement agricoles, hein, les éléphants. Ils ont une certaine, les éléphants, les autres animaux, ils ont une petite industrie, mais qui est très belle et tout va bien. C'est très euphorique.
Alors, deux interprétations. Première interprétation, Barbacole a besoin d'une statue pour orner sa cheminée. Il va demander à Podulard de lui fabriquer une statue.
Podulard, oui.
Et quand son costume, je ne sais pas s'il est vert, est usé, eh ben il va demander Podulard à Barbacole de lui servir de tailleur. C'est, première interprétation, c'est la société des égaux. On entendait Pierre-Rosan Vallon l'autre jour à France Inter.
C'est la société des égaux et contrairement à ce qu'avait dit Orwell, vous savez, nous sommes tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Dans la société de Babar, tout le monde est véritablement égal, seul Babar est roi, parce qu'il faut bien un roi, mais le roi Babar, il est, si je puis dire, il est aussi riche et aussi bien habillé et aussi à l'aise que tous les autres. Donc c'est une égalité plutôt dans l'aisance et dans l'abondance que dans la pauvreté. Mais vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup, c'est une sorte d'échange de produits, c'est une société idéale en ce sens où, me semble-t-il, je ne crois pas me tromper, il n'y a pas d'argent.
Deuxième interprétation.
Il n'y a pas de dollar Babar.
C'est quand même une société aristocratique, en même temps qu'elle est marquée par l'égalité. C'est un roi, il habite l'été le château de Bonne Trompe, peuplé de portraits
Jean-Maurice de Montremy, d'ancêtre, et de statues avec des hallebardes. Et puis on joue au tennis, on joue au piano, on fait du cheval, on a des face à main au bout de la trompe quand on est une dame.
Oui, c'est un roi, c'est autre chose qu'une monarchie monégasque, par exemple. Je ne veux pas dire du mal de la monarchie monégasque, mais le roi Babar et la reine Céleste, c'est vraiment c'est des gentils rois, parce que d'abord, ils sont beaucoup plus distingués que les rois d'opérette que l'on a d'aujourd'hui, et en même temps, ils sont très familiaux. Ils vivent plutôt comme des grands bourgeois, et effectivement, avec tous les usages que vous avez dit, et donc c'est très rassurant. Et quant aux jeunes enfants et cousins du roi Babar, ils font de la danse, c'est très joli, une petite éléphante qui danse en tutu, et c'est réussi dans le... Et c'est vrai, ils ont de bonnes manières, mais on est plutôt dans la société un peu de Marcel Proust, finalement. Et ça ressemble à la vie aristocratique telle qu'on l'a concevée un peu idéalement du temps de Proust.
Mais vous pouvez, Jean-Maurice de Montremy, concevoir qu'au moins avant la relève par Laurent de Brunhoff, avant la période d'après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un public de bonne famille seulement, Élisée Babar.
Je pense que c'est un public de bonne famille. Je crois que c'est un public de bonne famille, oui. En tout cas, les codes qui sont présentés sont celles des bonnes familles et elles sont bien rassurantes.
À la maison de campagne des Brunhoff, on pouvait rencontrer Francis Poulenc.
C'est probable qu'il a dû les rencontrer. En tout cas, il s'est beaucoup intéressé au roi Babar.
Ah, le voici avec Georges Lescaut.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Puisque vous avez cité Guitry, Jean-Maurice de Montremy est mon invité, on parle de Babar, 80 ans, le silence d'après Poulenc n'était pas de Poulenc.
Mais ce qui est important, c'est de parler de Francis Poulenc tout de même, parce que je pense que c'est sans doute à Poulenc que Babar doit son internationalisation, notamment son audience aux États-Unis en grande partie, car d'abord, c'est un milieu, on a parlé du milieu de Jean de Brunhoff, du milieu de Babar, comme d'un milieu qui est encore celui de Marcel Proust. Et Francis Poulenc, le grand compositeur français, était très proche de ce milieu encore, des grands salons, et qui sont des salons franco-américains, les Polignac, des gens comme ça, qui sont entre les deux côtés de l'Atlantique, avec le même mode de vie encore un peu européen et fastueux, de genre high life, diraient les Anglais. Et donc, en 1940, peu après l'exode, Poulenc est réfugié, il a 41 ans, il est réfugié à Brive-la-Gaillarde. Et à Brive-la-Gaillarde, il joue au piano comme tous les jours. Il a une petite nièce qui s'approche de lui, qui dit « Écoute, oncle Francis, vraiment, c'est horrible ce que tu joues, je ne comprends rien du tout. Tiens, tu vas nous faire quelque chose de mieux. » Elle prend son album de Babar, elle le pose à la place de la partition sur le piano, et lui dit « Voilà ce que tu dois jouer. » Alors bien sûr, Poulenc ne s'y est pas mis tout de suite, mais il y a toujours pensé, ça lui a beaucoup plu. Et juste après la guerre, en 1945, il se met au travail. Et je peux peut-être vous lire un extrait d'une lettre qu'il envoie, parce que c'est à la fois toute l'époque et le projet est très beau. Il écrit donc en 1945 « J'ai repris, à la demande de la BBC et de la voix de son maître, un vieux projet dont je viens de terminer l'esquisse. Il s'agit de l'histoire du petit éléphant Babar, mise en musique pour speaker et piano, genre Pierre et le loup de Prokofiev, mais avec un texte beaucoup plus drôle et imprévu. » Ça, c'est un compliment, bien sûr, pour le texte de Jean de Brunhoff. Important parce qu'il a parlé de Pierre et le loup, et cette œuvre l'histoire de Babar, le petit éléphant, va avoir un immense succès, y compris à l'étranger, puisque les parties de récitant ne sont pas complètement intégrées à la musique. Et immédiatement, des acteurs, notamment américains, assez célèbres, ont pu lire la partie, enfin dire la partie pendant que le pianiste jouait l'œuvre. Et ça a eu extrêmement d'importance pour la diffusion par ces milieux mondains et distingués et très riches de l'œuvre des deux côtés de l'Atlantique.
Si vous permettez qu'on parle maintenant de la démocratisation de l'œuvre des deux côtés de l'Atlantique, bah d'abord il y a des chanteurs et des acteurs comme Jacques Brel qui, du côté français, se sont apprêtés à dire les textes dans la partition de Poulenc. Et puis, fin des années 60, on fait un saut dans le temps. C'est maintenant Laurent de Brunhoff qui, depuis 1946, a repris l'œuvre de son père. Adaptation à la télévision, à la fois à la télévision française et à la télévision américaine. C'est concomitant. Et Babar devient un phénomène sociologique qui dépasse les barrières de classe. Il faut au moins un expert comme celui qu'on va entendre maintenant pour analyser les choses.
Bon, on va maintenant présenter quelqu'un, j'arrive pas à trouver d'expression pour la présenter, je crois que c'est un phénomène de société, les sociologues vont peut-être se pencher sur sa réussite. En deux passages au Palais des Congrès, 400 000 spectateurs, c'est assez hallucinant, c'est le record absolu de la salle de la Porte Maillot, Chantal Goya, Babar.
Chantal Goya, Champs-Élysées, 1983. Vous connaissez ça aussi ?
Je connaissais Champs-Élysées, l'émission. Non, je ne connais pas. Je connais j'aime beaucoup la musique de Babar qui a été reprise plus tard, on va sans doute en parler, par un dessin animé américain qui a fait une très jolie musique. C'est Babar, Babar, le Babar Star, que je trouve bien meilleure que celle que chante Chantal Goya. Et je rappelle qu'il y a une musique authentique écrite par, parce que la famille Brunhoff est une famille de musiciens. Et dans le premier des Babars, il y a une partition avec des paroles mémorables. Et on peut même chanter Patali, dit Rapata, Kromda, Kromda, Ripalo, Pata, Pata, Kokoko. Je peux même vous le chanter, je ne le ferai pas, même sous la menace. Mais la partition existe et tout le monde peut chanter Patali, dit Rapata.
Ceux qui n'ont pas compris font appel aux mammouths, sont les mammouths qui seuls sont capables de traduire cette formule que vous avez reprise et vous la connaissiez par cœur, Jean-Maurice de Mormy.
Cromda, cromda, ripalo.
Un certain nombre d'adaptations américaines sont de qualité et reçoivent votre agrément. C'est qu'en 1987, Laurent de Brunhoff, qui est installé depuis 1985 en Californie, a confié à la Clifford Ross Company le soin de choisir les sociétés à qui accorder les licences de droits dérivés. Mais la société Nelvana, qui de son côté veut commercialiser au maximum, entre en conflit avec la Clifford Ross Company. Il y a un livre de l'Harmattan sur le sujet, le cas Babar, les droits dérivés.
On a dit qu'il n'y avait pas d'argent dans la société de Babarienne, mais il y en a tout de même.
Un tourbillon de procédures judiciaires qui ne s'achève finalement que vers l'an 2000. C'est le conflit entre la multiplication nécessaire, inévitable plutôt, dit Laurent de Brunhoff, et puis le maintien du caractère esthétique de Babar.
Mais c'est intéressant parce que je pense que c'est parallèle avec une autre aventure franco-américaine qui est Le Petit Prince. D'ailleurs, avec Le Petit Prince de Saint-Exupéry, qui a fait lui-même ses illustrations, il y a manifestement une parenté entre Le Petit Prince et Babar du point de vue des couleurs et de l'idée même de concevoir l'histoire. Vous savez comme moi que Le Petit Prince franco-américain, Babar franco-américain, est aussi l'objet d'enjeux publicitaire. Et c'est vrai, ce qui va se jouer, c'est un peu ce qui va après se jouer sur toutes les séries, c'est vraiment de choisir quel type de produit on va promouvoir avec Babar. Et vous l'avez dit, c'est peut-être une grande guerre, parce que ou bien on fait des savons de luxe, des beaux peignoirs, des choses qui marquent un peu la société babarienne, ou bien au contraire, on va se dire, bon, mets une Babar sur un ballon, mets Babar sur un bonbon, mets Babar sur n'importe quoi, et simplement, c'est à Babar, ça va se vendre. Et je pense que c'est très important pour bien garder la marque. Et c'est vrai que Le Petit Prince, on avait eu exactement les mêmes disputes. Il y a beaucoup d'argent à la clé.
Le passage aux États-Unis, c'est le passage au concret aussi, dans le dessin, dans le récit. Vous avez fait lire à vos enfants les dernières productions de Laurent de Brunhoff ?
J'aurais fait lire, mais d'abord j'ai commencé par les lire, c'est très important. Babar, ce sont des albums qu'on commence par lire aux enfants. Les enfants se promènent, parce qu'ils sont très grands, ils se promènent avec leurs mains sur les images. Et puis plus tard, quand ils commencent à savoir lire, ils le lisent tout seuls. Mais c'est très important de lire. Alors, donc j'ai lu, bien sûr, j'ai lu tous les Babars. Moi, je suis personnellement moins attaché. Je trouve que vers la fin, quand Laurent de Brunhoff a voulu américaniser, moderniser Babar, notamment avec l'idée qu'il fallait moderniser les voitures, moderniser... Une partie du charme de Babar s'est perdue, je crois, ce qui... très agréable chez Babar et beaucoup mieux que dans la famille monégasque, c'est le fait que c'est un monde maintenant totalement disparu et tout à fait bizarroïde.
Oui, mais Babar, depuis les États-Unis, va sur la planète Mol, il emprunte des fusées.
Qu'est-ce que ça peut bien être que cet objet ?
Tout ce que je sais, c'est que ce sera bougrement relou.
Ceci, messieurs, n'est autre que l'invention qui va l'emporter au concours des inventeurs de Célesteville.
Ah, oui, sûrement, on peut savoir ce que c'est.
C'est un secret. C'est une fusée spatiale, autrement dit, une machine volante, quoi.
Quel est le carburant qu'utilisera cette machine pour voler ?
Le voilà !
Des cacahuètes ? Mais quel est le moteur qui peut utiliser des cacahuètes comme carburant ?
C'est un secret.
Faut faire attention, parce que maintenant, ça va être le moteur.
Une bicyclette ? Tu crois que tu vas faire voler ça avec une bicyclette?
Allez-y, allez-y, riez tant que vous le voulez. Croyez-moi sur parole, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Je vous présente la première machine volante à propulsion bicyclo-cacahuète à contrôle antimagnétique démagnétisant automatiquement.
Tout de même, je vous vois faire la moue, Jean-Maurice de Mourmy. Aux États-Unis, naît une quatrième fille. Une jeune fille moderne, Isabelle.
Oui, je suis moins convaincu. Bon, j'espère que les lecteurs le suivent davantage. Il me semble que c'est un peu difficile de sortir Babar de toute son aura des années 1930. Et finalement, il est un peu enfermé dans cette époque avec un côté justement de plus en plus décalé. C'est, en tout cas, pour des vieux lecteurs, des vieux enfants comme moi, c'est un peu difficile. Alors, il faudrait en effet savoir dans les nouvelles générations si, comme toutes les machines décrites par Laurent de Brunhoff dans les nouveaux Babar, si je puis dire, sont elles-mêmes devenues totalement obsolètes, peut-être que cet effet de décalage temporel joue moins.
Mais Laurent de Brunhoff doit être un peu convaincu par votre argumentation. Il arrive à un âge avancé maintenant et il dit « Je n'aurai pas de continuateur. Je ne souhaite pas, puisque mon fils ne veut pas reprendre, je ne souhaite pas que Babar soit prolongé. »
Je pense que ça, c'est sagesse, de même qu'il est très heureux que Hergé ait prévu qu'il n'y ait aucune suite de Tintin, aucune reprise de Tintin, parce que ça, c'est la mort en général, c'est la mort d'un personnage quand il se dilue en reprise. Bon, c'est le cas tragique, si je puis dire, de ce qui est arrivé à Spirou. Hein. Spirou est fait n'importe comment par n'importe qui, enfin je ne veux pas dire du mal, je ne citerai pas de nom, et c'est un peu ce qui risque d'arriver à Gaston Lagaffe, le grand Gaston Lagaffe, si comme c'est devenu un peu une ruse maintenant, on a inventé un cousin de Gaston qui serait presque Gaston, mais pas tout à fait Gaston, et qui finit par dégrader le personnage, ça n'a plus la même verve, ça devient, je ne parle pas de Lucky Luke, hein. ça devient des personnages interchangeables ou comme finalement il est arrivé à Mickey. Mickey, à force d'être redessiné, le créateur de Mickey, qui n'est pas Walt Disney, a très bien dessiné Mickey. Depuis que n'importe qui fait Mickey, c'est beaucoup moins bien.
D'ailleurs, en France, parlons un peu de politique. On est toujours du Conseil des ministres.
Je ne sais pas comment vous allez faire.
On regrette le temps du général de Gaulle ou bien alors le temps de Raymond Barre. Parce que s'il y a quelqu'un qui ressemble à Raymond Barre, c'est bien Babar.
J'allais apprendre à être roi. Et c'était mon tout premier jour à la cour royale.
Et voici son Altesse royale, Babar, roi des éléphants.
J'avais une de ces peurs. Heureusement, mes deux fidèles conseillers, Cornelius et Pompadour, ils étaient avec moi.
Tu dois fixer le budget pour l'année prochaine dès aujourd'hui.
Et puis assister au grand concours annuel de pêche au gros.
Et complètement remodifier la politique économique du pays telle que nous la connaissons.
Vous êtes adressé à 10 heures aux représentants de la culture locale.
Je pense que le costume beige conviendrait parfaitement pour la réunion avec la culture. Et je pencherai pour un bleu pour l'entretien avec le monde des finances.
Babar, est-ce que tu es occupé?
Je ne suis jamais trop occupé pour toi, voyons. Tu m'accordes une minute de tranquillité?
Mais oui, tout le temps que tu voudras, Babar.
Cela va sans dire, votre Altesse.
Eh bien, il est évident, vous avez raison, que Babar est le préconisateur de la règle d'or, la fameuse règle d'or budgétaire. Je pense qu'il faut s'inspirer de Babar et que pour convoquer le congrès, il faut dire patali, dira pata, cromda, cromda, ripalo, etc. Pata, pata, coco, coco.
C'était une rediffusion du 31 août dernier. Réalisation
Jacques Sigal, préparation Mérine Moneghetti, Franck Olivard et Frédéric Martin, l'exposition consacrée à Babar au Musée des Arts Décoratifs à Paris.